L'évangile selon saint Matthieu. En ce temps-là, comme Jésus parlait à la foule, un chef de la synagogue s'approcha et se prosternant devant lui, lui dit: Seigneur, ma fille vient de mourir, mais venez imposer la main sur elle et elle vivra. Jésus se levant, le suivit avec ses disciples, et voici qu'une femme qui souffrait d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha la frange de son vêtement, se disant en elle-même: Si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. Jésus s'étant retourné et la voyant, lui dit: Ayez confiance, ma fille, votre foi vous a sauvée. Et la femme fut guérie à l'heure même. Lorsque Jésus fut arrivé à la maison du chef de la synagogue et qu'il vit les joueurs de flûte et tout un monde qui faisait grand bruit, il dit: Retirez-vous, car cette jeune fille n'est pas morte, elle dort. Et il se moquait de lui. Lorsque la foule était renvoyée, il entra et prit la main de la jeune fille, et la jeune fille se leva. Et le bruit s'en répandit dans tout le pays. Asseyez-vous. Nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, je voudrais aujourd'hui vous décortiquer un petit peu l'épître de Saint Paul aux Philippiens. Une épître qu'on pourrait croire avoir été écrite pour aujourd'hui. Il y a des passages dans cette épître d'aujourd'hui qui sont tout à fait pour notre temps. Toutes les épîtres sont pour notre temps, mais surtout celle-là. D'abord, Saint Paul dit aux Philippiens de chercher à l'imiter dans le modèle qu'il nous a donné. C'est un peu étrange. Pourquoi? Parce qu'on pourrait se dire, mais quel manque d'humilité. Saint Paul qui demande à ce qu'on l'imite. En fait, il faut comprendre la phrase de Saint Paul. Qu'est-ce que dit Saint Paul? Saint Paul est un ancien persécuteur de l'Évangile, un ancien persécuteur des chrétiens. Donc les gens à qui il parle, savaient tous que c'était un ancien persécuteur. C'est qu'il avait été converti miraculeusement par une apparition extraordinaire de notre Seigneur Jésus-Christ sur le chemin de Damas, qui le précipite au bas de son cheval et qui lui dit: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Je suis Seigneur, Seigneur que tu persécutes. Mais qu'est-ce que veut dire Saint Paul? Saint Paul veut tout simplement nous dire: c'est moi qui étais un persécuteur. Je suis devenu maintenant un apôtre du Christ. Le travail de conversion que le bon Dieu a fait dans moi, il peut le faire dans les âmes de chacun d'entre nous. C'est dans ce sens-là qu'il faut imiter Saint Paul. Il faut imiter Saint Paul dans le sens de conversion. Et on passe d'une vie en état de péché mortel, d'une vie dans l'état de révolte contre Dieu, à une vie dans l'état d'amitié avec notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est la phrase de Saint Paul qu'il faut comprendre dans ce sens-là. Et une deuxième phrase dans cette épître qui est assez étonnante. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit: nous vivons dans le ciel, dont nous sommes les citoyens. Moi, j'aurais jamais osé dire cette phrase-là. On pourrait dire: nous espérons un jour être dans le ciel et être citoyens du ciel un jour. Saint Paul ne dit pas ça, il dit: nous vivons au présent. Nous vivons ici dans le ciel et nous sommes déjà ici-bas citoyens du ciel. Pourquoi dit-il ça? Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, Saint Paul explique que à partir du moment où nous sommes en état de grâce, comme l'état de grâce, c'est la présence en nous de la Sainte Trinité, c'est l'habitation en nous de la Sainte Trinité, donc quelqu'un qui est en état de grâce est déjà dans le ciel. Ne voyez pas ce que dit le texte du livre de la Genèse. Nous sommes créés à l'image de Dieu, tous, parce que nous avons tous une âme. Mais ceux qui vivent en état de grâce, en plus d'être créés à l'image de Dieu, ils sont créés aussi à la ressemblance de Dieu. Donc nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Si nous avons en nous l'état de grâce, et en ayant l'état de grâce qui n'est rien d'autre que l'habitation en nous de la Sainte Trinité, celui qui est en état de grâce est déjà au ciel, ici-bas. Donc les ennemis de l'Église qui cherchent, on le voit aujourd'hui de façon malheureusement très claire, qui cherchent à écrabouiller l'Église jusqu'à interdire les messes publiques, hein, quelle catastrophe. Eh bien, il faut que ces ennemis de l'Église comprennent, c'est une chose qu'ils n'ont manifestement pas compris, que pas compris, que ils peuvent attaquer l'extérieur, ils ne peuvent pas attaquer les âmes. Ils n'ont pas de pouvoir sur les âmes directement. Et si je vis en état de grâce, si je fais attention d'être en état de grâce, j'ai déjà en moi le paradis. Et donc, puisque j'ai en moi le paradis, je devrais avoir en moi justement une paix extraordinaire. Voilà pourquoi le catholique est toujours en paix. Et même les catholiques ont dû passer par des persécutions terribles, même en étant dans les prisons et des souffrances épouvantables, ils avaient cette paix extraordinaire qui était miraculeuse, qui venait du bon Dieu, qui venait de quoi? Qui venait du fait qu'ils vivaient en état de grâce. Donc ils sont déjà au paradis par l'état de grâce. Si je réalisais l'importance de ça, pour ça que si j'ai le malheur de commettre une faute grave, il ne faut surtout pas rester dans le péché mortel, il faut venir se confesser au plus tôt. Justement parce que par la confession, je récupère l'état de grâce. Imaginez que vous ayez fait tomber un lingot d'or, ben vous baissez tout de suite pour aller le chercher. Vous n'allez pas attendre une demi-heure pour aller chercher le lingot d'or que vous venez de faire tomber. Et bien là, c'est bien plus qu'un lingot d'or, puisque c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis en état de grâce, donc j'ai le paradis en moi. Malheur à moi si je le perds. Ensuite, dans la première partie de cette épître de Saint Paul aux Philippiens, il parle, justement, donc il fait une comparaison d'une part avec ceux qui vivent dans l'état de grâce, je viens de vous en parler, et puis il parle de ceux qui sont contre la nature de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc ceux qui vivent contre l'amitié et la paix que Dieu seul peut donner. Et pour parler de ces gens-là, il parle de ceux qui, donc, haine pour la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Hein, qui refuse la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui refuse la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est celui qui refuse la rédemption, puisque la rédemption vient par la croix. Vous enlevez la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, plus de moyen de salut. Voilà pourquoi Saint Paul a cette phrase qui semble, encore une fois, un petit peu bizarre. Ces gens qui se conduisent en ennemi, dit-il, en ennemi de la croix du Christ. Ennemi de la croix du Christ, ça veut dire ennemi du mystère de la rédemption. Ça veut dire deux choses. D'une part, ceux qui cherchent à se sauver sans passer par la rédemption, par la croix, et ceux qui au contraire, refusent complètement la vie de pénitence qui est nécessaire pour le salut. Celui qui veut venir après moi, qu'il prenne sa croix, qu'il se renonce à lui-même et qu'il se suive. Donc Saint Paul explique bien que la première caractéristique de ceux qui refusent notre Seigneur Jésus-Christ, qui refusent d'avoir ce paradis en eux dont il vient de parler, c'est ceux qui rejettent la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes entourés aujourd'hui de gens qui refusent la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Souvent on me pose cette question, Monsieur l'abbé, quelle est la différence essentielle entre l'Église de Vatican II et l'Église catholique? Je réponds toujours de la même façon, la différence essentielle. L'Église de Vatican II, c'est l'Église catholique moins la croix. On a enlevé la croix. Pourquoi? Parce qu'ils veulent le paradis ici-bas sans la croix. Saint Paul vient d'expliquer qu'on peut avoir le paradis en soi par l'état de grâce. Mais l'état de grâce, elle est en nous par la croix. C'est la mesure où on s'associe à la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, où on refuse sa volonté propre pour suivre la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'on a en soi le paradis, et en soi le paradis, on garde le paradis dans la mesure où on garde l'amour de la croix. Il n'y a pas d'amour, de paradis possible en nous sans l'amour de la croix, au moins ici-bas. Une fois qu'on sera au paradis, de façon définitive, après la mort, alors là, ce sera autre chose. On pourra jouir de la gloire du bon Dieu sans la croix, mais ici-bas, ce n'est pas possible. Et Saint Paul rajoute. Il va enfoncer toute une série de clous, justement, pour bien expliquer quel est l'esprit de ceux qui rejettent notre Seigneur Jésus-Christ. D'abord, il dit, ce sont ceux qui sont les ennemis de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ils n'ont qu'une idée, dit-il, détruire les croix. Qu'est-ce que l'ennemi de notre Seigneur Jésus-Christ cherche à détruire en lui? L'image et la ressemblance de Dieu. Bon, s'il a une image. Il a l'image de Dieu par son âme. Cette âme, strictement parlant, personne ne peut la détruire. Personne ne peut enlever son âme de sa nature. C'est pas possible. Par contre, on peut détruire la présence de notre Seigneur Jésus-Christ par la ressemblance avec Dieu, par le péché mortel. Et donc, on voit très bien que Saint Paul ici parle de ceux qui veulent détruire la présence de Dieu dans la société. C'est exactement ce qu'on voit aujourd'hui. Aujourd'hui, le gouvernement cherche par tous les moyens à enlever, à arracher, surtout de l'âme des enfants, à arracher la présence de Dieu dans les âmes. La plus grande richesse d'un enfant, c'est quoi? C'est l'état de grâce. En tout cas, un enfant qui n'est pas capable encore de commettre un péché mortel. Donc on voit très bien que le gouvernement va tout faire maintenant pour arracher cet état de grâce de l'âme des enfants, afin de pousser l'enfant à vivre dans le péché mortel. Et cette destruction va entraîner la destruction, si vous voulez, la destruction de la loi naturelle et aller même plus loin que ça pour que la loi naturelle soit remplacée par une loi contre la nature. Et Saint Paul va en faire allusion dans 2 minutes. Parce qu'après avoir donné deux premiers points, il continue en disant que les gens qui refusent notre Seigneur Jésus-Christ, qui refusent la croix, qui sont émis de la croix, font de leur ventre un dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Une phrase un peu bizarre. Quels sont ceux qui font de leur ventre un dieu? Ben, c'est tout simplement ceux qui adorent leur propre nature au lieu d'adorer la nature divine. Ceux qui transforment leur ventre en dieu, c'est ceux justement qui vivent complètement dans la concupiscence des yeux, concupiscence de la chair, et qui finissent par éliminer complètement Dieu de leur vie. Et puis il insiste, pour bien nous faire comprendre, il insiste en disant que ces gens-là vont avoir la phrase exacte, c'est une phrase un peu complexe qui dit, ils mettent leur gloire dans ce qui devrait les couvrir de honte. À quoi fait-il allusion ici? On voit avec plusieurs textes parallèles de Saint Paul, en fait, il fait allusion à tous ceux qui vivent dans les péchés contre nature. Et il faudrait avoir honte de ses péchés. Et le monde moderne, non seulement a enlevé cette honte du péché, mais fait croire qu'on peut avoir de la gloire de ses péchés. Vous voyez? Donc il faut se rappeler envers et contre tout, justement, que de Dieu on ne se moque pas. On ne peut pas se moquer du bon Dieu. C'est absolument impossible. Et donc il faut que nous ayons en quelque sorte ce désir de nous sanctifier. Comment est-ce qu'on sanctifie? On sanctifie par la croix. C'est pour ça que si je suis ennemi de la croix, donc j'élimine la croix, éliminant la croix de ma vie de tous les jours, et bien évidemment, je ne peux plus vivre selon la nature, je vais vivre selon la contre-nature. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Et Saint Paul termine avec une dernière phrase en disant que ces gens-là n'ont de goût que pour les choses de la terre. Donc nous faire croire que les choses de la terre sont importantes, et remplir notre cœur, notre âme, si vous voulez, avec les choses matérielles pour qu'il n'y ait plus de place pour les choses spirituelles. Et donc, qu'est-ce que c'est qu'un chrétien? Un chrétien qui veut justement garder le paradis en lui, c'est quelqu'un qui va donc d'abord se conduire en ami de la croix du Christ, deuxièmement, qui va chercher à reconstruire ce qui a été détruit par le péché, qui va refuser d'adorer son corps, mais il va adorer notre Seigneur Jésus-Christ qui vit dans son âme, qui va mettre sa gloire dans les choses du ciel et qui va mettre son goût dans les choses du ciel au lieu de les mettre dans les choses de la terre. Voilà donc le catholique. Alors, il faut, mes bien chers frères, aujourd'hui, plus que jamais, on voit comment la révolution est en train de prendre une nouvelle accélération, c'est absolument clair. On voit très bien ce qui se passe actuellement partout dans le monde, surtout en France, aux États-Unis aussi, on le voit très bien. Comment justement la révolution est en train d'accélérer un coup d'accélérateur supplémentaire pour essayer d'écrabouiller tout ce qu'il y a devant lui. Mais n'oublions pas une chose, encore une fois, c'est que ces gens-là ont pouvoir sur nos corps, ils n'ont pas pouvoir sur nos âmes. Vous voyez, j'ai reçu beaucoup de messages de gens, par exemple, de familles que je connais, plus ou moins d'ailleurs, et que je connais parfois pas mal, qui, par exemple, font l'école à la maison. Font l'école à la maison, maman fait de gros sacrifices pour faire l'école à la maison pour que les enfants puissent justement avoir une formation catholique et ne pas être détruits par les écoles modernes sans Dieu. Et ses parents paniquent en me disant, mais monsieur l'abbé, le gouvernement français, à partir du mois de septembre 2021, veut supprimer complètement l'école à la maison. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qui va se passer? Comment allons-nous protéger nos enfants? Il faut pas oublier une chose, ce sont les enfants du bon Dieu. Ce sont ses enfants à Dieu. Et donc, si le bon Dieu permet un mystère que, je dirais même, c'est le cas de plus en plus dans l'État de pays dans le monde entier, que même littéralement le gouvernement vient de prendre nos enfants pour les enlever de l'influence des parents, les confier à des bandits pour qu'ils détruisent leur âme. Dieu sera obligé de donner à ses enfants les grâces dont ses enfants ont besoin pour arriver à conserver la foi parce qu'ils sont baptisés. Il y a un bon Dieu au-dessus, attention. Et mon Dieu ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces, et voilà pour tout le monde, y compris pour ses enfants. Donc le bon Dieu donnera les grâces à ses enfants pour qu'ils puissent conserver la foi. Rappelez-vous les Japonais les Chinois qui ont conservé la foi pendant 3 siècles sans prêtre. Il n'y a pas de confession, pas de communion, pas de messe, rien du tout. Ils avaient le baptême, le catéchisme transmis par les anciens, les sacrements de mariage, c'est tout. Ils n'avaient pas les autres sacrements. Ils ont pourtant conservé la foi. Et donc, s'ils ont pu conserver la foi, eh bien, chers frères, nous aussi, nous aurons, avec la grâce du bon Dieu, nous aurons la même possibilité. Donc, demandons cette grâce. Demandons cette grâce par l'intermédiaire de notre Sainte Vierge Marie, puisque tout passe par elle. On peut aussi expliquer l'évangile du jour avec la même lumière. Cette petite fille qui est guérie par notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur va prendre simplement avec lui Saint-Pierre, Saint-Jacques et Saint-Jean, va guérir cette petite qui est morte. Il la prend par la main, elle se lève. Ça représente quoi? Eh bien, ça représente justement le dégât provoqué par le péché qui rentre dans l'âme, qui tue l'âme. Donc cette âme est moribonde, elle est morte sur son lit, sur son lit de souffrance, et bien Dieu a pouvoir sur cette âme. Si Dieu a pouvoir pour venir chercher, il vient jusqu'à la maison de la petite pour la lever de son lit et la rendre à ses parents, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le bon Dieu a pouvoir sur nos âmes. Et que si nous sommes malheureusement dans un état de destruction morale, un petit peu comme un cadavre, puisque c'est le cas de celui qui vit dans le péché mortel, et même si nous sommes dans un cadre comme un cadavre, le bon Dieu a pouvoir sur ce cadavre. Craignons ceux qui ont pouvoir sur nos corps, qui ont pouvoir sur nos âmes, ne craignons pas ceux qui ont pouvoir sur nos corps. Et que le pouvoir sur notre corps est limité par la puissance du bon Dieu. Le bon Dieu ne donne pas aux démons le pouvoir complet sur nos âmes. Il a un certain pouvoir sur notre âme. Mais le démon est limité dans son pouvoir par la volonté du bon Dieu qui en quelque sorte marque exactement la limite parce qu'il a promis qu'on ne sera jamais tenté au-delà de nos forces. Donc il nous faut comprendre ces choses-là, mes bien chers frères. Et je crois que aujourd'hui, plus que jamais, alors que on voit ce qui est, on voit une espèce de découragement général. Découragement général de plus en plus palpable chez nous, même parfois chez nos fidèles, parce qu'ils nous disent, mais monsieur l'abbé, qu'est-ce qu'on va faire contre ce rouleau compresseur? Que pouvons-nous faire? Et on constate cette espèce d'affolement général, cette espèce d'énervement constant, d'énervement général. Donc il me semble qu'il y a un grand danger à éviter. Le grand danger, c'est quoi? C'est l'activisme. Et d'essayer de garder la foi, la force du poignet ou le volontarisme, eh bien, de quoi avons-nous besoin? De quoi avons-nous besoin? Contre quoi lutte la révolution? Faut bien comprendre ça. Si on a compris ça, pardon, je pense qu'on a compris beaucoup de choses. La révolution, c'est d'abord la lutte contre toute forme de vie intérieure. Et donc, la meilleure façon de lutter contre la révolution, c'est d'avoir une vie intérieure forte. Parce que si j'ai une vie intérieure forte, à ce moment-là, mon âme est vivante. Et mon âme étant vivante, les démons ne peuvent rien faire. Donc je conseille beaucoup à tous les fidèles qui ont tendance un peu à se décourager, c'est le cas pour chacun d'entre nous, je pense aujourd'hui, justement de favoriser cette vie intérieure. Si vous savez méditer, ceux qui ont fait les exercices de Saint-Ignace, beaucoup l'ont fait, vous savez un peu méditer, donc obligez-vous à méditer un peu. Et je suis sûr que si vous preniez un moment où vous êtes complètement découragé, un quart d'heure pour essayer de méditer sur les grandes vérités de la foi catholique, vous serez beaucoup plus fort. Si vous avez du mal à méditer, même prenez un livre tout simple. Prenez par exemple l'Imitation du Christ de Thomas à Kempis. On dit que c'est le plus grand livre, le plus beau livre jamais écrit par un homme. Parce que l'évangile est écrit par le Saint-Esprit. Vous prenez Thomas à Kempis et vous lisez un ou deux chapitres. Lentement. Vous voyez? En lisant lentement un ou deux chapitres de Thomas à Kempis, eh bien, vous alimentez votre âme. Vous avez un peu de vie intérieure. Ou tout simplement, même pour ceux, surtout pour ceux qui ne peuvent pas avoir la messe en semaine, peut-être simplement lire le texte de la messe du jour. Et vous obligez, voilà, je vais prendre 10 minutes tous les matins, tous les soirs, pour lire le texte liturgique de la messe du jour. En faisant ça, je nourris mon âme, c'est ça la vie intérieure. Il n'y a pas besoin de savoir faire de rentrer dans des contemplations extraordinaires pour avoir une vie intérieure. Une vie intérieure, c'est quoi? C'est une vie de l'âme. Donc, obligez-vous à avoir un minimum de vie intérieure. Et c'est Saint Ignace de Loyola, on parlait déjà de son temps, la suppression de l'ordre des Jésuites. Et un de ses moines lui a demandé, mes pères, si on venait à supprimer l'ordre des Jésuites, combien de temps auriez-vous besoin pour arriver à accepter une croix pareille, une épreuve pareille? Et il répondit, une demi-heure devant le Saint-Sacrement. Une demi-heure devant le Saint-Sacrement pour être suffisamment fort pour accepter la destruction de toute mon œuvre. Eh bien, si nous étions comme ça, si nous étions capables de dire, voilà, je suis en train de perdre la paix intérieure. Perdre la paix intérieure, c'est quoi? C'est l'arrêt de la vie intérieure, justement. Donc, puisque je suis en train de perdre la vie intérieure, je vais contre-attaquer en ayant un peu de vie intérieure pendant 10 minutes. Je m'assois, je prends l'imitation du Christ, par exemple, ou je prends mes missels et je lis lentement la messe du jour. Commençant par l'introïte jusqu'à la fin de la messe. Vous n'êtes pas obligé de lire tous les textes de l'ordinaire de la messe, vous lisez simplement les textes du propre de la messe du jour. Eh bien, déjà, vous nourrissez votre âme. Il y a des épîtres magnifiques, des évangiles magnifiques pendant la semaine qu'on n'a en général jamais le temps d'expliquer parce qu'on explique l'évangile du dimanche, l'épître du dimanche. Mais ainsi, vous nourrirez votre âme. Et nourrissant votre âme, vous deviendrez tout de suite beaucoup plus fort. Et donc, demandons à la Très Sainte Vierge Marie, mes bien chers frères, demandons à la Très Sainte Vierge Marie qu'elle nous obtienne ces grâces dont nous avons besoin. S'il y en a une qui avait une vie intérieure, c'est bien elle. Et pourtant, elle non plus, elle n'a pas tout compris, elle n'avait pas la science infuse, attention. Rappelez-vous, juste après, Jésus qui reste à Jérusalem à 12 ans sans prévenir ses parents, elle le cherche pendant 3 jours, et ils lui font un reproche, parce qu'ils ne comprennent pas, Saint Joseph et la Sainte Vierge Marie ne comprennent pas pourquoi l'enfant Jésus est resté sans prévenir 3 jours à Jérusalem, alors que ses parents se faisaient évidemment un sang d'encre. Ne savez-vous pas, dit notre Seigneur, que je devais être aux affaires de mon Père? Et à cette petite phrase dans l'évangile de Saint-Luc, Marie conservait toutes ces choses dans son cœur, les méditant sans cesse. Mais cette méditation de la Très Sainte Vierge Marie sur les choses qu'elle ne comprenait pas, c'est ça la vie intérieure. Et c'est parce que la Très Sainte Vierge Marie avait cette extraordinaire vie intérieure qu'elle a pu justement accepter d'être là au pied de la croix et qu'elle est maintenant au pied dans la gloire du ciel, au pied de notre Seigneur Jésus-Christ pour toute l'éternité. En demandant-lui de nous aider à ne jamais nous décourager. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.